Donc, c'était vraiment la fin de la position du cadre problématique. C'est-à-dire qu'avec cette quatrième séance, j'estime en gros que j'aurais posé la piste d'envol et que les séances suivantes vont évidemment voir réapparaître très systématiquement les différents concepts que j'aurais essayé de poser, puis éventuellement de réélaborer un peu. Mais il y aura toujours donc un objet artistique. Alors la fois prochaine, nous allons préparer la séance avec Pierre Huyg, qui aura lieu le 27 avril. Ensuite, nous aurons une séance avec Dominique Figuerella. Je vous le dis pour que vous ayez le temps un petit peu de vous préparer et de regarder des catalogues. La séance du 11, je ne sais pas exactement ce que je ferai. C'était en principe une séance Chris Marker, mais ça a l'air de poser quelques problèmes. Donc je ne suis pas sûre que ça sera ça finalement. Et la séance du 18, ce sera un artiste allemand qui s'appelle Alexander Schello qui viendra. Voilà. Là aussi, il faudra que je vous donne un petit peu des moyens de vous documenter sur son travail. En tout cas, je dis ça notamment pour les étudiants de Nanterre. Je pense que c'est important que dès maintenant, ils s'intéressent, vous allez voir un petit peu ce que c'est que le travail de Pierre Huyg, H-U-Y-G-H-E, et ensuite le travail de Dominique Figuerella. Voilà. Et bien sûr, Dominique Figuerella viendra le 4 mai. Donc on pourra parler avec lui de cette question de la pratique. Alors évidemment, tout ce qui aura été posé là est posé comme une hypothèse de travail et va être rediscuté, réélaboré et un peu testé finalement, au vu de ce que on pourra ensuite travailler à propos d'objets artistiques spécifiques. Aujourd'hui, donc, je vais m'aider de quelques textes. Le premier, c'est un extrait du livre donc de Henri Michaud, qui s'appelle Émergence, résurgence. Et voilà, donc c'était ce que je vous avais promis la fois dernière, et puis ce que finalement je n'avais pas retrouvé dans ma bibliothèque, que j'ai fini par retrouver. Il y aura de Foucault trois textes. D'une part, le texte qui s'appelle L'écriture de soi. D'autre part, le texte qui s'appelle L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté. Et d'autre part, le texte qui s'appelle Une esthétique de l'existence. Les trois textes faisant partie de Des écrits 4. Et troisième référence, c'est évidemment le bouquin de Deleuze sur Foucault. Voilà. Alors je regrette beaucoup, j'espérais que George Collins, mais peut-être qu'il va arriver, soit présent, parce qu'il était un interlocuteur évidemment dans cette discussion sur Foucault à propos de Deleuze. Voilà, j'espère qu'il m'a dit qu'il venait, ou plutôt Deleuze à propos de Foucault, j'espère qu'il va effectivement venir. Alors je vais faire une espèce de reprise un peu synthétique de ce que j'avais dit la dernière fois, en essayant un tout petit peu de souligner les arêtes interprétatives qui avaient été dégagées. Donc, au fond, la dernière fois, je m'étais essentiellement livré à une sorte d'exercice de traduction, on pourrait dire, pour essayer de comprendre les raisons politiques chez Foucault de cette articulation étrange, surprenante à première vue, en tout cas, entre Kant et Baudelaire, qui structure le texte Vaciste Aufklärung. Et j'avais essayé de comprendre pourquoi Foucault fait de la figure du dandy, dont la figure du dandy représentée, on est d'accord, la figure du dandy, une sorte de réincarnation de ce que j'avais appelé le pasteur éclairé chez Kant, parce que l'un et l'autre se rejoignent dans le même retournement d'une technique de domination originairement appliquée à autrui et finalement retournée, si je puis dire, en connaissance de soi ou en pratique de soi. C'est-à-dire, au fond, ce sont l'un et l'autre font usage d'une technique de domination a priori destinée pour la domination d'autrui, en pouvoir sur soi-même. Et c'était ça qui m'avait intéressée. Pouvoir ascétique du dandy, pouvoir de connaissance du sujet kantien. Voilà, donc à partir de là, j'avais donc cristallisé, si je puis dire. Et là, je voudrais qu'on travaille vraiment sur cette figure, qui était cette figure de ce que j'avais appelé suspens, détournement, retournement, en essayant finalement d'étendre, d'élargir encore cette figure, en montrant qu'elle n'a pas simplement une signification politique, elle ne renvoie pas seulement à des stratégies de pouvoir, mais qu'elle a véritablement une fonction épistémologique. Et c'était ça, au fond, l'enjeu de la séance précédente. Et j'avais essayé de montrer, effectivement, qu'il y avait une traduction possible du jugement chez Kant jusqu'à l'imagination chez Baudelaire. Et qu'au fond, il y avait véritablement une filiation, une généalogie, un effet de généalogie possible entre ces deux concepts. Et qu'au fond, ces deux notions, jugement chez Kant, imagination chez Baudelaire, étaient, en un certain sens, bien les précurseurs, encore que j'aime pas tellement ce mot qui a l'air d'organiser une sorte de grande perspective historique sur la production des concepts, mais en tout cas, étaient bien, généalogiquement, des ferments possibles de ce que Foucault appelle la réflexion du présent. Pourquoi ? Parce qu'au fond, et c'est là où j'en viens à la portée épistémologique de cette grande figure du détournement, c'est qu'au fond, que ce soit à travers le jugement chez Kant ou à travers l'imagination chez Baudelaire, c'est-à-dire au fond, que ce soit à travers ce geste de retournement vers le sujet d'une forme a priori destinée à connaître un objet, chez Kant d'un côté, et chez Baudelaire, cette très étrange figure qui consiste, ou ce très étrange geste qui consiste à respecter et à violer, on retrouve le même effet de détournement. Au fond, on avait exactement, finalement, le même type de geste. Et bon, ça c'était au fond, c'était les effets de traduction que j'avais opérés pour essayer de comprendre pourquoi Baudelaire arrive dans la définition de la réflexion du présent qui est au départ une réinterprétation de Kant. Et par ailleurs, c'est ce sur quoi je vais plus travailler aujourd'hui, ce que j'avais souligné, c'était au fond ce qui va décaler fondamentalement la modernité baudelairienne par rapport à la modernité kantienne. Et là, je vous demande de reprendre là. J'allais dire que ce qui véritablement fait la différence, là où vraiment il y a un saut épistémologique entre la modernité conceptualisée par Kant et la modernité telle qu'elle va pouvoir être conceptualisée à partir de Baudelaire, c'est l'interprétation que l'un et l'autre font du médium de la réflexion. À savoir que chez Kant, ce médium de la réflexion, c'est une forme, ce que Kant appelle une forme indéterminée, qui se présente immédiatement dans la nature et qui témoigne d'une finalité secrète à la fois dans la nature et entre les facultés de l'esprit, tandis que chez Foucault, c'est une pratique, et non plus une forme, c'est une pratique qui est décrite au départ par Baudelaire à propos de Constantin Guy, mais qui ensuite va être décrite par Baudelaire à propos d'autres artistes comme Delacroix. C'est une pratique qui est articulée par une certaine répétition et surtout par la possibilité d'un déplacement de cette répétition. Et j'avais beaucoup analysé ce texte qui est en partie cité par Foucault, mais pas complètement malheureusement, qui est ce texte dans lequel Baudelaire raconte la manière où chez Constantin Guy, le dessin va à la fois répéter et déplacer la vision. Le dessin reproduit la vision et simultanément transforme la vision. Au fond, on pourrait dire que de Kant à Baudelaire, non seulement le médium de la réflexion passe du statut de forme au statut de pratique, mais surtout, on passe de l'idée d'une opération qui va simplement de l'objet au sujet, hein, retournement d'une opération objective en opération subjective, tandis que chez Baudelaire, hein, on a transposition d'un support à un autre. Et donc, on passe à tout à fait, j'allais dire, une opération d'une nature différente. Dans le détournement donc, qui va être opéré par l'art, on n'a pas simplement un usage différent des facultés, hein, mais on a passage d'un mode de matérialisation à un autre mode de matérialisation, passage au fond d'un exercice de la vision, qui est un type d'enregistrement strictement mental, hein, à un enregistrement du dessin sur le papier. Et ce qui est important ici, hein, c'est que détournement se fait sous la forme du transfert, hein, c'est-à-dire que transfert d'un support sur un autre support. En ce sens, et je voudrais juste corriger ce que j'ai dit la dernière fois, puisqu'on est enregistré, on est obligé de se corriger après, à moins de se s'auto-censurer ou d'effacer les enregistrements. J'avais dit au fond, cet exercice de la vision, il se fait à l'air libre. Non, il ne se fait pas à l'air libre. Hein. Il se fait, c'est déjà l'exercice de la vision, c'est déjà un mode d'enregistrement, hein, sauf que la surface d'enregistrement, le support d'enregistrement, c'est le psychique. C'est-à-dire qu'au fond, que la surface d'enregistrement de la vision, eh bien, c'est ce que Freud appelle l'écran magique, hein, c'est le support mémoriel. Au fond, donc dans l'opération qui nous mène de l'exercice de la vision à l'exercice du dessin, on a passage d'un support mnésique, hein, qui est tout à fait matériel, hein, à un support, j'allais dire physique, hein, qui est la page de papier. Hein. Donc,
on va pas prêter.
Oui.
Bon, sinon, j'en parle après.
Non, mais intéressant, sauf qu'il faudrait, Gabriel.
Parce que. On t'écoute. Mais c'est simplement par rapport à ça, c'est que peut-être qu'importe. C'est parce qu'il y a une nouvelle relation, un nouveau lieu pour les corps d'un Baudelaire. Parce qu'il y a une métaphore très intéressante de lui, c'est la transformation dans le travail des dessinateurs de Guise.
Et
quelque chose qu'il explicitement utilise la métaphore de la digestion. C'est quelque chose de digestif. C'est absolument corporel. Non c'est...
Tout à fait. Tout à fait. Mais il a utilisé, à mon avis, une métaphore encore plus intéressante sur laquelle je me suis basée. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis.
Je vais juste moi la métaphore que j'ai choisie chez Baudelaire et qui me paraît la plus pertinente, en tout cas dans la perspective qui va nous amener à l'art contemporain, c'est que lorsque Baudelaire parle de ce transfert du psychique au gestuel, on pourrait dire, hein, il montre que cela implique d'une certaine façon, hein, que le regard de Constantin Guy soit traversé par un courant électrique. Il imagine, hein, que Constantin Guy doit passer dans une centrale électrique pour en ressortir d'une certaine façon, hein, avec cette espèce de regard quasi stroboscopique, qui ensuite reproduira, hein, les flashs, hein, qui se sont inscrits en lui sous forme de ce dessin presque mécanique, hein, ce dessin presque automatique, hein, qu'il arrache à son propre corps, on a le sentiment. Hein. Donc au fond, ce qui m'a intéressé, c'était la façon dont, chez Baudelaire, il y a l'intuition, et déjà d'ailleurs la description, hein, d'un regard traversé par un courant électrique, hein, à haute tension, hein, et qui, donc, est un regard qui est travaillé, médiatisé par une technique de transmission. Ce que nous dit au fond Baudelaire là-dedans, c'est que pour qu'il y ait une transposition, pour que ce soit possible cette transposition de la vision au dessin, il faut quelque chose de plus que l'organe physique. Il faut cette électricité, il faut cet opérateur de transmission, ce transformateur électrique véritablement, hein, littéralement. C'est-à-dire, au fond, il faut constitution d'une mémoire. Parce que à quoi sert l'électricité, hein, à quoi sert cette sorte de médiatisation de la vision par ce courant électrique, eh bien, elle sert à ce que ce regard soit non seulement, j'allais dire, de l'ordre d'une projection, mais qu'il soit en même temps une mémorisation. Et que pour que le regard devienne mémorisation qui ensuite peut se décharger dans le geste, peut se répéter et se décharger dans le geste du dessin, eh bien, il a fallu ce transformateur électrique. Au fond, ce que nous dit Baudelaire, indépendamment de toutes ces critiques de la photographie, parce qu'en fait là on est dans un paradigme photographique d'une certaine façon, c'est que la vision ne s'actualiserait pas, elle ne s'enregistrerait pas sans un appareil enregistreur qui est déclenché par une énergie externe. Donc l'enregistrement de la vision n'est pas automatique. C'est ça que nous dit Baudelaire. Et l'enregistrement de la vision, que suppose sa répétition, il n'y aurait pas de possibilité de répéter la vision s'il n'y avait pas déjà préalablement enregistrement de la vision, eh bien cet enregistrement de la vision suppose le branchement de l'organe, en l'occurrence de l'œil, à une source d'énergie artificielle, et à un appareil en réalité. Donc la vision est d'emblée, nous dit Baudelaire, au fond, appareillée. Et derrière, évidemment, cette construction, il y a ce constat, que la mémoire, c'est un processus matériel. La mémoire est un processus matériel, c'est une inscription de traces, et cette inscription de traces, eh bien, elle suppose un autre mécanisme que la volonté. Elle suppose un mécanisme technique. Et donc... il n'y a pas de répétition sans technique. Donc, on ne peut pas simplement s'appuyer sur une théorie de la pulsion, comme le fera, comme on a tendance un peu à le faire, mais il faut imaginer cet appareil technique. Alors, je voulais vous lire, la fois dernière, et je ne l'avais pas fait, un texte d'Henri Michaud. Je le fais parce que je trouve qu'il nous permet, au fond, comme c'est une problématique complexe, et qui, je crois, en même temps, vraiment traverse la pratique artistique. Cette question-là. Dans le rapport, la manière dont s'articule la techné, une techné, l'organe, la possibilité de cet organe d'être un organe non seulement de perception, mais également d'enregistrement, et la possibilité du coup qu'il articule une pratique, c'est-à-dire une répétition. Et une répétition alors Deleuze dirait différenciante, en tout cas une répétition qui donne lieu à transformation. Je voulais vous lire ce texte de Michaud, qui pour moi est une sorte de texte fétiche. C'est un texte dans lequel Michaud, au fond, raconte, ça se trouve dans ce recueil qui s'appelle Émergence-Résurgence, qui est une sorte d'analyse par Michaud, au fond, de la Genèse, de sa pratique de peintre. Et dans ce passage que je vais vous lire... ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte au fond comment il passe de la poésie au dessin, et pourquoi au fond la nécessité de passer du verbal au pictural. Et donc on est bien, disons, dans ce contexte qui m'intéresse, du détournement, puisque là on a bien affaire à un détournement d'une pratique poétique via une pratique picturale pour faire échec à ce qui dans cette pratique poétique est encore pour Michaud de l'ordre d'un assujettissement ou d'une domination. Donc il y a vraiment une stratégie entre pratique poétique et pratique du dessin. Le premier passage, parce qu'il y a deux passages, le premier passage que je vous lis, et on pourra revenir sur ce texte, « Opération création, au départ insularité, puis une certaine tension, une tension grandissante, une tension qui ne finit pas, naissante nécessité d'expansion. » Premier problème, où trouver le terrain pour l'expansion? Papier, pierre, argile, toile, scène. Trouver son terrain, le terrain pour l'exercice d'une vie, d'une autre vie en instance, d'une nouvelle vie à accomplir, hic et nunc, une vie qui n'était pas là avant. Terrain trouvé, vient l'opération déplacement. Pas pour embrouiller, pas par recherche de sublimation, ni même d'avilissement, ni non plus par compensation, mais par essentiel déplacement, seule et unique nécessaire opération. Pour pouvoir s'y intéresser vraiment pour une vie actualisée, un auteur n'est pas un copiste, il est celui qui, avant les autres, a vu, qui trouve le moyen de débloquer le coincé, de défaire la situation inacceptable, même ratée, jamais ratée, parmi les myopes satisfaits. En débloquant sa situation, il en débloque des centaines d'autres, des situations d'époque ou de l'époque qui ne fait encore que poindre. Évidemment, on a un certain écho par rapport au texte de Foucault qu'on a lu jusqu'à présent. Et je voulais vous lire un second texte, si j'arrive à le trouver, toujours dans le même livre. Alors. Livre dont vous voyez qu'il a été travaillé par le temps. Voilà. Page 114, édition Skira. Le premier texte était page 72. Hein. J'ai peint afin de rendre le monde plus marquant, tout en refusant le réalisme des conduites et des idées. J'ouvrais ainsi d'un côté, tenant fermé l'autre. Dessine ma première recherche. C'est le monde réduit au maximum. Certains réduisent le monde à l'intelligibilité, ce qui est le rejeter en partie, comme on le voit dans les esprits abstraits, de plus en plus abstraits, de plus en plus refoulants. Lourd, épais, embarrassant en effet est le monde. Pour le tolérer, il faut en rejeter beaucoup, d'une façon ou d'une autre, ils le font tous. Je le fis particulièrement tôt, trop tôt, à ma manière, aspirant à plus de temps transréel, à y vivre toujours. Pour m'être trop souvent, plus tard, retrouvé penaud, je sentis le grand danger à demeurer ainsi. La peinture, tout à coup, à 26 ans, me parut propre à saper mon état et mon univers. En même temps, je tenais à montrer du monde concret son peu de réalité. À la longue, ce fameux monde s'imprima-t-il tellement plus. Progrès, mais pas spectaculaire. Je ne rencontrais pas, semble-t-il, le concret sur son terrain. Même dans les visages, un des endroits les plus réels pour moi, objet qui devenait sujet si facilement, réalité encore manquait, passait. Plutôt que les traits, leur évanescence venait à ma rencontre, fantôme qu'une émotion éponge. Ou bien j'allais à eux, comme à des aires de circulation, à des cours, à des fontaines, des jardins, si peu fermés, c'est tout traversé, partagé, dissous et dissolvant, un visage, où c'est sur l'invisible que l'on bute, et toujours restent les yeux chargés d'un autre monde. J'arrête là, c'est pour moi c'est une espèce de point de repère, de cadre. Je vous invite à lire ce livre parce que ce livre concerne absolument tout ce qu'on dit en fait ici. Hein. Évidemment d'une façon un peu transversale et beaucoup plus rapide que malheureusement je ne peux le faire avec des concepts et j'allais dire avec des mots. Donc au fond ce qui est important dans ce texte, c'est la façon dont Michaud décrit l'opération artistique comme une opération de déplacement. Hein, qui suppose un transfert d'un support, la langue, sur un autre support, le papier. Et ce déplacement suppose non seulement une matérialisation, bien sûr, hein, mais ce transfert suppose une technique de transfert. Hein. Voilà. Et donc, j'étais partie de cette notion de transfert hein, en disant déjà le jugement esthétique chez Kant, c'était déjà une forme de transfert de l'objet au sujet. L'imagination chez Baudelaire, c'est un transfert du psychique au gestuel. Mais au fond, ce qu'implique la modernisation, et ce qui est déjà crypté en creux dans le texte de Baudelaire, c'est que l'activité humaine étant prise dans un nexus de plus en plus... un nexus technique, technologique, technoscientifique de plus en plus complexe, eh bien, on s'aperçoit que ce transfert est... Cette réflexion en tant que transfert hein, passe par les voies de la technologie. Au fond, hein, ce que nous révèle la modernité, ou peut-être qu'il faudrait dire d'une façon beaucoup plus simple ou beaucoup plus modeste, la modernisation, hein, c'est que le médium lui-même est médiatisé. C'est au fond hein, que le médium lui-même est par définition... Hein, techniques, technologiques, voire technoscientifiques aujourd'hui. Donc au fond, il ne suffit pas de dire, comme le fait Kant, la réflexion passe par un médium, mais il faut ajouter que ce médium est technique, hein, et aujourd'hui, non seulement technique, mais technoscientifique. Et déjà, d'ailleurs, Baudelaire le sent, puisqu'au fond, il emploie cette métaphore de la centrale électrique. Hein, et surtout, il nous produit des analyses de la pratique picturale extraordinairement concrètes. Hein. J'avais lu la fois dernière des passages sur la vitesse. J'avais lu aussi tout un tas de passages sur la question de la méthode picturale, hein, où on voit que déjà, il a une idée extraordinairement, j'allais dire, presque technologique de la pratique picturale. Même si, par ailleurs, sa théorie est une théorie apparemment purement idéaliste. Donc, cette appréhension technique de la réflexion, hein, c'est à quoi je vous invite progressivement, hein, et du médium de la réflexion, réinscrit la réflexion dans sa matérialité comme un mécanisme psychique, hein, qui repose sur l'inscription, sur l'enregistrement, sur la reproduction de traces mnésiques, et remet donc la question de la mémoire, hein, absolument au centre du concept de réflexion. Parce qu'au fond, ce qui est très très frappant dans le concept de réflexion chez Kant, c'est que d'une certaine façon, il fait l'impasse sur la mémoire. Et que ce qu'on voit au fond progressivement à travers cette technicisation du médium de la réflexion, eh bien en réalité, c'est à quel point la question de la mémoire est au centre de la réflexion. Donc au fond, on pourrait dire que d'une certaine façon, il s'agit une fois de plus, hein, de remettre la métaphysique sur ses pieds. Hein, c'est-à-dire au fond de remettre la réflexion sur ses pieds et de montrer que la réflexion, c'est une fonction de la mémoire, hein, et pas seulement une fonction de la connaissance. Ou plutôt qu'il n'y a pas de fonction de la connaissance qui ne soit, d'une certaine façon, une fonction de la mémoire. Tout simplement parce que la connaissance travaille sur un certain matériau mnésique, matériau qui est lui-même produit, et qui suppose un appareil de production, voire un système de production, lequel excède radicalement les seules facultés humaines, et qui inclut la pensée humaine, la production de la pensée, dans un ensemble beaucoup plus vaste, hein, de production humaine, de production technique, dont la nature évolue, bien sûr, avec le développement même de l'appareil technique, technologique, technoscientifique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit progressivement, hein, comment, dès lors qu'on commence à mettre la mémoire au cœur de l'opération de la connaissance, eh bien du coup, on produit par rapport à la connaissance, hein, l'appareil d'une extériorité technique, hein, dont la connaissance ne saurait se passer. Et c'est ça qui se passe, hein, c'est que progressivement, hein, avec cette matérialisation des opérations de la connaissance, hein, avec cette découverte que le médium de la réflexion est en fait, hein, d'ordre technique, voire technologique, eh bien, on s'aperçoit que la connaissance, hein, s'inscrit, hein, et que la production de connaissance s'inscrit dans un système de production qui l'excède largement, et dont elle est simplement, j'allais dire, un département. Voilà. Et que ce qu'il faut penser, naturellement, c'est l'extériorité de l'appareil technologique par rapport à l'appareil des facultés, c'est-à-dire la manière dont l'appareil des facultés repose et exploite et instrumenté par un certain appareil technologique. Alors, la réflexion de Foucault, elle est très compliquée à comprendre, puisqu'au fond, chez Foucault, toute cette dimension technologique est complètement, j'allais dire, dissimulée, ou presque complètement dissimulée. Et Foucault s'exprime en gros dans une langue extrêmement traditionnelle, extrêmement classique, hein, qui parfois fait un peu douter de ce qu'il veut vraiment nous dire. Hein. Alors qu'en fait, lorsque Foucault essaie de penser le rapport des morales antiques aux pratiques de soi contemporaines, ce qu'il marque et ce qui est vraiment le fondement même de l'opération que je suis en train d'essayer de décrire et de faire, hein, eh bien c'est précisément cette extériorité de la technologie par rapport à la pensée. Que la pensée suppose une technologie. Donc que la pensée est produite, hein, et que pour autant que la pensée est produite, eh bien évidemment la réflexion est produite et le jugement est produit. Et donc, ce qui est important, d'une certaine façon, c'est que de bien comprendre que chez Foucault, et c'est important de le noter dès maintenant, chez Foucault, cette terminologie morale, cette terminologie, parfois même, on a presque l'impression, je ne sais pas comment dire, enfin, on a l'impression que, bon, on est dans le registre strictement du pragmatique, de la pratique, de la morale, du rapport à soi, etc. Bon, hein, cette chose qui a l'air d'être presque de l'ordre, j'allais dire, d'un concret humain, voilà. Et, hein, en réalité, a pour enjeu de nous mettre en face et de nous donner à penser cette extériorité qui porte la pensée, hein, cette extériorité technologique, hein, qui porte la pensée et qui, chez les Grecs, prend une forme qui est une forme, j'allais dire, élémentaire de techné, qui sont les techniques de soi, mais qui aujourd'hui prend une forme technoscientifique qui est tout simplement l'industrie de l'information. C'est-à-dire qu'au fond, ce que nous permet de penser, en fait, la référence à la morale antique et aux techniques de soi antiques chez Foucault, c'est des questions extrêmement contemporaines qui sont la manière dont ce que nous appelons réflexion, ce que nous appelons jugement, etc., ne peut pas être pensé en tant qu'opération, disons, qui travaille sur le matériau mémoire, si nous ne pensons pas, d'abord, tout l'appareil extérieur qui produit les conditions de possibilité de ce traitement de la mémoire. Ça, c'est absolument déterminant. Alors, à partir de là, je voudrais réfléchir sur trois différents termes, mais enfin notamment les termes d'individuation, d'émancipation et de mémoire. Parce qu'au fond, jusque-là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est j'ai essayé de produire la matérialisation d'un certain geste spirituel. Le jugement chez Kant, c'est un geste spirituel. J'ai montré comment, en fait, ce geste spirituel, progressivement, se pensait comme un geste technique. Mais on pourrait, du coup, inverser la proposition et dire qu'à travers la façon dont un geste spirituel se pense comme un geste technique, ce qui se découvre en réalité, c'est la nature technique d'un geste spirituel. Et c'est ça qui m'intéresse, naturellement. Ce qui m'intéresse, hein, c'est de saisir au fond que c'est exactement cela qui est en jeu dans la pensée de Foucault lorsqu'il ne pense plus en termes de faculté, mais qu'il pense en termes de capacité. Parce que lorsqu'il pense en termes de capacité, eh bien, on voit bien que ce qui est en jeu dans les capacités, c'est quelque chose de l'ordre d'une technique. Là où ce qui est en jeu dans le terme de faculté, c'est quelque chose qui est encore en termes de physis, hein, voilà, et d'esprit. Voilà. Donc, c'est important parce que dès lors qu'on traite la question du jugement, hein, à partir de cette question du matériau mémoire, hein, qui est le matériau du jugement, et du caractère nécessairement technique du traitement de ce matériau, eh bien, on revient à ce point qui est absolument déterminant, chez Foucault en tout cas, et pour moi également, on n'est pas du tout dans le contexte d'une théorie du sujet entendue au sens traditionnel ou moral du terme. Ça, j'y insiste. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une théorie de l'identité et encore moins dans une théorie du soi. Hein. Je l'avais déjà développé depuis deux séances et j'y reviens constamment. En fait, pour Foucault, c'est en tant que notre action est assujettie à un certain nombre de pouvoirs et en tant qu'elle est appelée à se penser comme une réponse à ces pouvoirs, c'est-à-dire, au fond, c'est parce que nous sommes des sujets agissants, et j'allais presque dire parce que nous sommes des agents, qu'il y a une dignité philosophique de la question de la réflexion. C'est-à-dire que la question de la réflexion chez Foucault, c'est toujours la question de l'action réfléchissante, et jamais la question du sujet réfléchissant. Ou plutôt, s'il y a une question du sujet réfléchissant, elle se pose d'abord et avant tout comme question de l'action réfléchissante. Et c'est pourquoi, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action de la pratique comme action réfléchissante. Et donc, la réflexion chez Foucault et le jugement comme pratique, ça n'est jamais à entendre comme réflexion de l'individu en tant que tel, ou au fond de qui se prendrait comme un individu en tant que tel. Ce qui se réfléchit, ce n'est jamais le sujet, c'est toujours l'action du sujet, ce qui n'est finalement jamais qu'une manière de radicaliser Kant. Puisqu'au fond, chez Kant, la seule chose qui se réfléchisse, véritablement, de manière à produire, d'une certaine façon, de la connaissance, c'est le sujet moral. C'est pas le sujet de la connaissance. Voilà. Donc, au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, évidemment, nous revenons à l'Antiquité. Parce que nous revenons au sujet tragique. Qu'est-ce que c'est que le sujet tragique ? Aristote le dit très bien dans la théorie de la tragédie, dans la poétique, il dit au fond, le sujet, c'est celui au pratontes, c'est ceux qui agissent, pratein, c'est ça. Le sujet, c'est celui qui agit. Et donc, je pense que le sujet chez Foucault doit toujours être entendu comme sujet de l'action. Et j'y insiste parce que lorsqu'on lit Foucault, et surtout lorsqu'on lit les entretiens avec Foucault, on se rend compte que les interlocuteurs de Foucault essaient toujours de reprécipiter Foucault dans une théorie métaphysique du sujet. Et si maintenant on essaie de penser la question du médium au sein de l'action, qu'est-ce que c'est que le médium de l'action, au fond, si l'action est réfléchissante, la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce médium de la réflexion dans l'action, au sein de l'action, qu'est-ce qui divise l'action par rapport à elle-même, eh bien ça nous pose la question de savoir au fond qu'est-ce que c'est que cette extériorité qui travaille une action. Une action réfléchie, au sens de Foucault, c'est une action qui comporte en elle-même, en son propre sein, une part d'extériorité. Au fond, c'est une action qui n'est jamais une, qui n'est jamais la même qu'elle-même, au fond, qui n'est jamais identique à elle-même. Et là, on est évidemment au cœur de la question de la pratique. La pratique, c'est une action divisée. C'est une action qui est articulée par quelque chose, par une extériorité, une extériorité, j'allais dire, ontologique. Et ça, c'est évidemment ce qu'on va essayer de creuser avec les artistes qu'on a invités. Alors, il y a une question à laquelle on ne coupe pas également. Vous voyez, là, je prends un certain nombre de précautions théoriques pour qu'on ne s'embarque pas dans des approximations. Il y a une autre question à laquelle on ne coupe pas, à part la question de l'action réfléchissante et du sujet réfléchissant, c'est la question de ce que Foucault entend par libération, émancipation, et qu'en fait il décrit plutôt à travers un concept que j'aime mieux, qui est le concept d'individuation. Qu'est-ce que c'est que l'individuation ? L'individuation, c'est la conversion d'un sujet assujetti en sujet autonome. Et donc, la question qui se pose lorsqu'on veut essayer de comprendre l'individuation, c'est de bien distinguer individuation et subjectivation. Ce que nous dit Foucault, c'est que toutes les formes de relations au pouvoir, de la plus dominée à la plus émancipée, sont des formules de subjectivation. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est un mode de subjectivation. Et que ce en quoi consiste l'individuation, c'est ce mode spécifique de subjectivation dans lequel il y a effectivement une manière d'interaction. C'est-à-dire, c'est ce mode spécifique de subjectivation dans lequel l'action du sujet arrive à avoir prise sur la domination et à l'infléchir, à travaillant avec les armes de la domination, à infléchir la domination. C'est-à-dire qu'au fond, l'individuation, c'est la subjectivation considérée du point de vue de cette articulation opératoire, de ce que j'ai appelé l'interaction. La subjectivation, on va dire, c'est l'incorporation du pouvoir. Et l'incorporation de l'action du pouvoir en sujet assujetti. Bon. Tandis que, alors, cette incorporation du pouvoir en sujet assujetti, ça peut prendre la forme de l'institution, ça peut prendre la forme de la science, ça peut prendre la forme du discours, ça peut prendre la forme de la pratique, enfin, ça peut prendre toutes les formes que vous voulez. Et ce qui intéresse Foucault, évidemment, c'est pas tant les sujets. Ce qui intéresse Foucault, c'est les actions institutionnelles, les énoncés, les pratiques et les discours scientifiques. Au fond, c'est là qu'il trouve ses sujets assujettis. C'est ça qui est important. Foucault a une expression très intéressante pour conclure là-dessus. Il dit, au fond, il y a des pratiques d'assujettissement et il y a des pratiques de liberté. Donc vous voyez qu'au fond, il emploie le terme de pratique même pour parler de l'assujettissement. Donc ça, je pense que c'est important de le noter. Et je voulais vous lire un petit passage qui se trouve page 733 de ce texte sur l'éthique, le soutien de soi et l'éthique de la liberté. Et vous avez dans ce texte... Non, c'est dans Une esthétique de l'existence, excusez-moi. On lui pose une question, alors bon, je ne vous relis pas la question, voilà. Si les sujets sont toujours assujettis, ils sont le point d'application de techniques, disciplines normatives, mais ils ne sont jamais des sujets souverains, dit l'intervieweur, qui est, je ne sais plus qui, Monsieur Fontana. Et Foucault répond, il faut distinguer. En premier lieu, je pense effectivement qu'il n'y a pas un sujet souverain fondateur, une forme universelle de sujet qu'on pourrait retrouver partout. Je suis très sceptique et très hostile envers cette conception du sujet. Je pense au contraire que le sujet se constitue à travers des pratiques d'assujettissement ou, d'une façon plus autonome, à travers des pratiques de libération, de liberté, comme dans l'Antiquité, à partir bien entendu d'un certain nombre de règles, styles, conventions qu'on retrouve dans le milieu culturel. Donc là, on vous avait entendu, hein, pratique d'assujettissement, pratique de libération ou de liberté, et il n'y a pas de pratique de liberté sans pratique d'assujettissement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre, et on va le retrouver tout à l'heure dans la question des pratiques de soi. Alors, ce qui m'intéresse évidemment dans ce texte, c'est comme d'habitude un détail, c'est ce « à partir de ». Voilà, c'est ça que je voudrais commenter. Foucault pose donc la question du jugement, qu'il appelle pratique, comme un accomplissement de l'extériorité du sujet à lui-même, ou encore, autre façon de dire la même chose, comme une conquête par le sujet de ce qui ontologiquement le constitue à partir d'un dehors. Alors ce dehors, on peut le penser de deux manières, et il la pense de deux manières, et ce dehors est appréhendable d'une certaine façon à deux niveaux différents. D'une part, ce dehors, c'est une certaine armature technique, technologique, technoscientifique, ce dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et d'autre part, ce dehors, c'est une certaine condition ontologique. Ce par quoi Foucault rejoint, au fond, les penseurs de son temps, que ce soit Blanchot, que ce soit Bataille, que ce soit Lacan. Là, on peut dire qu'il communie dans l'épistémé général. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre cette articulation chez Foucault entre jugement ou pratique et réflexion au sein du jugement ou au sein de la pratique, c'est-à-dire réflexion dans l'action, comme produite à partir d'une extériorité et du coup produisant une extériorité. C'est très important parce que la réflexion, Kant nous avait habitués à la penser de manière spéculaire. Et que ce que fait Foucault par rapport à ce concept de réflexion, c'est qu'il va la déspéculariser. Et l'éthique, c'est cela. L'éthique, c'est Foucault, ou ce qu'il appelle la pratique réfléchie de la liberté. C'est au fond un espèce de synonyme de éthique. La pratique réfléchie de la liberté, c'est une manière de déspéculariser la réflexion mise en jeu dans la pratique.
Une question de Lambert.
Oui.
Lambert dit qu'il a...
Oui. Alors, la déspécularisation, ce que je disais, c'est qu'au fond, chez Foucault, là, je suis en train d'introduire quelque chose que je vais développer, donc vous allez, j'espère, comprendre par la suite. Ce que je veux dire, c'est que chez Foucault, la pratique, c'est l'accomplissement d'une extériorité qu'il faut penser de deux manières, hein, à la fois comme une condition technique, technologique, technoscientifique de la production de la pensée, hein, et en même temps comme une condition ontologique, hein, donc à deux niveaux. Voilà. Et que, en ce sens, la réflexion n'est plus spéculaire. Elle est prise. Hein, elle est prise dans la reproduction de l'extériorité qui la conditionne. Elle est sortie, vous comprenez, hein, elle est sortie de cette bulle spéculaire, hein, qui la contenait chez Kant. C'est ça la grande opération philosophique, enfin une des très grandes opérations philosophiques de Foucault, qui n'est pas la sienne, hein, uniquement, mais qui est aussi la sienne. Alors, je vais développer ce point. C'est-à-dire qu'à travers cette expression de réflexion du présent, Foucault, au fond, pose l'activité du jugement, hein, ou la pratique, suivant une double extériorité, et ensuite je vais développer ces deux lignes. Hein. D'une part, depuis son extériorité technique existence, ce que j'ai commencé de pointer à travers la centrale électrique de Baudelaire, et il montre que aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, ce que l'on voit, hein, ce que l'on est à même de penser, c'est la manière dont la réflexion, elle est en réalité articulée par une situation elle-même déterminée par un certain état de la technique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser la réflexion en termes de faculté, mais on doit la penser en termes de capacité. Voilà. Premier point. D'autre part, et parallèlement, on va dire, Foucault pose aussi l'activité du jugement suivant une seconde extériorité. Et cette extériorité, c'est ce qu'il appelle l'équipement de la pensée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équipement de la pensée? On va évidemment travailler là-dessus. Hein. L'équipement de la pensée, c'est la façon dont la pensée doit s'équiper pour internaliser l'extériorité qui la conditionne. Et cet équipement de la pensée, c'est ce qu'il appelle les techniques de soi. Bon, tout ça, c'est des annonces, hein, c'est des annonces et on va développer. C'est-à-dire qu'au fond, chez Foucault, pour le dire autrement, la réflexion qui est en œuvre dans le jugement et dans la pratique, hein, est pensée comme l'exercice d'une extériorité constituante et la transformation de cette extériorité en intériorité, et j'aime pas ce mot d'intériorité, en mode d'individuation. Alors Deleuze va écrire tout un texte là-dessus, qui s'appelle, que vous trouvez dans le livre de Deleuze qui s'appelle Foucault, qui s'appelle « Les plissements ou le dedans de la pensée ». Alors je vous parlerai de ce texte tout à l'heure. Bon, en tout cas, vous pouvez lire ce texte, et on pourrait d'ailleurs en reparler, je serais très contente qu'on en reparle de façon un peu intense. Et Deleuze, dans ce texte, cet article, ne parle pas, comme je le fais, hein, d'une transformation de l'extériorité en mode d'individuation, hein, ou internalisation de l'extériorité, hein, ça c'est plutôt mon vocabulaire. Il parle, lui, de pli, ce qui est normal, c'est son registre à lui métaphorique, hein, et conceptuel. Il dit, voilà, c'est un pli du dehors en dedans. Moi, j'évite le dedans parce que je trouve qu'on revient à cette idée d'intériorité. Alors, c'est une image intéressante parce que c'est une image qui rend très visible le geste de Foucault, hein, et le mouvement, surtout de la pratique. Mais en même temps, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, lorsque Deleuze parle du pli et de cette idée d'un plissement du dehors en dedans, eh bien, au fond, il a tendance à faire de ce plissement le geste même de la pensée, sans véritablement problématiser ce terme de pensée. Je voudrais vous lire un petit passage du texte qui à la fois vous présentera la thèse de Foucault et vous permettra de comprendre peut-être une certaine réticence par rapport à ce texte qui par ailleurs est très beau. Si le dedans se constitue par le plissement du dehors, il y a entre eux une relation topologique. Le rapport à soi est homologue du rapport avec le dehors et les deux sont en contact par l'intermédiaire des strates qui sont des milieux relativement extérieurs, donc relativement intérieurs. C'est tout le dedans qui se trouve activement présent au dehors sur la limite des strates. Le dedans condense le passé sur des modes qui ne sont nullement continus mais le confronte à un futur qui vient du dehors, l'échange et le regret. Penser, dit-il, c'est se loger dans la strate au présent qui sert de limite. Qu'est-ce que je peux voir et qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Mais c'est penser le passé tel qu'il se condense au-dedans dans le rapport avec soi. Alors, je vous lis ce texte, on ne va pas l'expliquer maintenant. C'est simplement pour que vous entendiez cette métaphore et sa productivité. Voilà, donc c'est page 127 de l'essai. Moi, ce qui me gêne évidemment, c'est qu'on en revient à l'idée d'une définition de ce que serait que penser. Penser, c'est se loger dans la strate du présent, etc., qui sert de limite, etc. C'est-à-dire, au fond, il y a la refabrication de l'idée d'une action qui est une, qui serait le penser. Alors que tout le travail de Foucault, à mon avis, ça consiste à diviser systématiquement le concept de l'action, pour montrer que toute action est cette espèce de conversion d'un assujettissement en autonomie. Ou la conversion d'un assujettissement en individuation. C'est-à-dire que la pensée elle-même, il n'y a pas pensée. Il y a forcément cette espèce de brisure interne qui fait que, ou de dédoublement qui fait que l'assujettissement devient, se convertit, se transforme en individuation. Et voilà, et je pense que tout concept qui renverrait à l'unité d'une opération devient dès lors assez problématique lorsqu'on essaie de comprendre Foucault. Voilà, alors, donc c'était une digression sur ce texte de Deleuze, on y reviendra certainement tout à l'heure. Alors, j'ai mentionné ces deux formes d'extériorité et je voudrais maintenant les développer. Donc, Foucault comprend la pratique à partir de deux modes d'extériorité. J'ai dit la première extériorité, c'est l'extériorité technique, technologique, technoscientifique, qui définit les conditions actuelles de la production du jugement. Alors, si maintenant je reviens à ce que dit Foucault, c'est-à-dire à l'idée qu'aujourd'hui, la manière dont s'actualise le jugement, c'est la réflexion des capacités en pouvoir et des pouvoirs en capacité. Si on traduit cette formule encore très abstraite, ce qui se pose à travers ça, c'est l'idée de savoir, au fond, est-ce qu'il y a une issue aujourd'hui à la conversion de nos moyens de maîtrise technologique ou technoscientifique en moyens de domination biopolitique? Est-ce que nous pouvons trouver une issue à cette situation apparemment aporétique de la modernité ou de la modernisation qui veut que tous les moyens que nous avons pour maîtriser et le monde et nous-mêmes et les autres, moyens de plus en plus techniques, de plus en plus technologiques, de plus en plus technoscientifiques, se convertissent automatiquement en moyens de domination biopolitique? Au fond, y a-t-il moyen d'inventer des modes de réponse à ces stratégies de domination, à les détourner, on en revient toujours là, détourner, retourner, hein, suspendre, détourner, retourner, en moyen de connaissance de notre action, hein, et en nouvelle stratégie de pouvoir. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer des enfants en laboratoire en mélangeant des cellules reproductrices d'hommes et de femmes. Alors, ces méthodes de maîtrise de la reproduction sont évidemment, se sont converties automatiquement en moyen de domination du désir féminin. À savoir, c'est devenu la femme doit désirer des enfants à n'importe quel prix. La question qui se pose devant cette espèce de transformation automatiquement de technique de maîtrise en domination biopolitique, hein, c'est la question de savoir, au fond, est-ce qu'on peut utiliser les expériences que font d'une part les femmes concernées et les hommes concernés, d'autre part les chercheurs, d'autre part les médecins, d'autre part les psychiatres, etc., etc., pour mieux comprendre le désir qu'ont les femmes d'avoir des enfants, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette action de faire un enfant, puisque maintenant on fait des enfants, hein, ce qui n'était pas vrai autrefois, d'une certaine façon, hein. Et donc, comment comprendre cette action de faire des enfants par rapport à l'action qui consisterait à ne pas faire d'enfants, hein. Et au fond, comment, ultimement, puisque c'est ces questions-là que se pose Foucault, hein, comment, au fond, permettre une émancipation pratique d'une part des femmes par rapport à la maternité, mais aussi bien une émancipation pratique des hommes à l'égard de leur désir de maternité. Au fond, les questions que se pose Foucault, c'est toujours ça. Et donc, c'est important de parler de Kant, mais c'est aussi toujours important de revenir à la pragmatique de la philosophie foucaldienne. Voilà. Donc, au fond, ça, c'est une première forme d'extériorité dans laquelle s'inscrit toute pratique, c'est-à-dire tout jugement. Mais cette première forme d'extériorité, qui est au fond de nature complètement technique, hein, elle nous conduit à la seconde forme d'extériorité. C'est-à-dire cette extériorité, j'allais dire, qui est ontologique. Alors on peut l'appeler de différentes façons. Blanchot l'appelait le dehors, Bataille l'appelait l'extase, Lacan l'appelle la castration, enfin bon... Ensuite, Heidegger l'appelle l'ouvert, etc. Bon, ensuite, on peut trouver mille façons de dire cette extériorité ontologique. Extériorité à laquelle nous sommes ontologiquement assujettis et dont la technique, finalement, n'est jamais que la manifestation, d'une certaine façon. Et est-il possible de construire cet assujettissement ontologique, de le construire via des techniques que Foucault va appeler des techniques de soi, pour transformer cet assujettissement ontologique en mode d'individuation. Exactement ce que Foucault reconnaît chez le dandy, par exemple. Et ce qu'il étudie chez le philosophe antique. Donc vous voyez qu'il y a deux niveaux de l'extériorité, que ces deux niveaux en fait renvoient l'un à l'autre, pour autant que l'extériorité technique qui conditionne la pratique n'est que la manifestation visible de l'extériorité ontologique, hein, qui définit alors ce qu'on pourrait appeler notre être au monde, hein, ou notre finitude, ou enfin tout ce que vous voulez. D'accord ? Alors, cette seconde forme d'extériorité, hein, qui va être mise en jeu dans le jugement, sous la forme des techniques de soi, elle va être convoquée par exemple par le dandy, hein, lorsqu'il fait échec au mode d'assujettissement qui est impliqué par l'institution démocratique du sujet. J'en ai parlé la fois dernière. Et j'avais montré déjà la fois dernière comment elle était aussi bien, cette seconde forme d'extériorité, elle était déjà présente dans tous les mouvements de la réforme au XVe, XVIe siècle, hein, c'est ce que note Foucault, pour faire échec à ce mode d'assujettissement de l'institution chrétienne qu'on appelle l'intériorité. Mais en réalité, ce que Foucault montre, c'est que cette seconde forme, d'extériorité, elle va être pensée véritablement dans la morale antique et dans ce que Foucault appelle, à partir de ces morales antiques, la technique de soi ou le souci de soi. Alors, ce qui est important, et ce que je voudrais juste noter, c'est que chez Foucault, la morale antique, c'est une espèce de tradition cachée. C'est une tradition cachée dont il montre très bien qu'elle est devenue cachée parce qu'elle est devenue récessive, c'est-à-dire qu'elle a été véritablement exploitée par la chrétienté, détournée déjà une première fois par la chrétienté, qu'il a utilisée pour fabriquer l'intériorité, et que ce qu'il faut faire aujourd'hui, au fond, c'est retourner ou inverser ce premier détournement des morales antiques par les techniques de l'intériorité chrétienne pour libérer d'une certaine façon ces techniques de l'intériorité qu'elles ont fabriquées finalement, et les utiliser contre cette tradition chrétienne. Donc on voit bien que chez Foucault, il n'y a pas du tout une espèce de, je sais pas quoi, de régression à l'antiquité ou de passion pour l'antique ou de néoclassicisme esthétisant. C'est pas du tout ça. S'il y a véritablement une généalogie de ce qu'a été l'institution chrétienne de l'intériorité, il a très bien compris que toutes les techniques, par exemple la confession, étaient en réalité des manières de détournement, donc des manières de jugement, exercées sur ces techniques qui avaient été mises au point, notamment par les stoïciens. Alors, c'est intéressant parce que ça explique beaucoup, là aussi, toutes les paradoxes terminologiques de Foucault. Parce que si la langue de Foucault est très souvent, j'allais dire, quasi-spiritualiste, ou quasi- ou pseudo-païenne, c'est intéressant, je veux dire, tous les effets de simulacre terminologique chez Foucault. C'est intéressant parce que c'est assez égarant. Et lorsqu'on lit les interviews de Foucault, on s'aperçoit que très souvent, les intervieweurs pose à Foucault des questions qui essaient de le réembarquer sur des pistes que lui-même avait barrées, mais que néanmoins il laisse ouvertes dans le dialogue parce qu'il sait très bien que sans ce langage de l'intériorité, sans ce langage au fond hérité de l'institution chrétienne, sans cette théorie du sujet traditionnel, etc., eh bien au fond il ne peut pas opérer le détournement qu'il veut opérer. C'est-à-dire qu'il travaille sur un matériau terminologique dont il a besoin. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens « votre sujet, je n'en veux pas », puisqu'on est en train d'essayer de faire des opérations sur ce sujet. Donc on travaille avec ce matériau qui est inexact, maladroit, qui conceptuellement est déficient, mais il faut en passer par là si on veut faire du détournement. Et il y a un interview qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est l'interview sur le souci de soi et les pratiques de la liberté, où l'intervieweur tient absolument à faire dire à Foucault « mais finalement le souci de soi, c'est le souci de l'autre ». C'est-à-dire, finalement, vous êtes quand même assez sympathique, quoi. Le souci de soi, c'est pas si amoral que ça, c'est pas si nietzschéen que ça. Et Foucault ne résiste pas, c'est-à-dire, il dit bien sûr, le souci de soi, c'est le souci de l'autre. Évidemment, on sent que l'intervieweur ne comprend rien. C'est-à-dire, l'intervieweur se dit, bon, tout va bien, finalement, tout ça, c'est très sympathique, c'est très moral. Et Foucault laisse faire. Et pourquoi il laisse faire, quitte à donner prise à toutes les mes interprétations, il laisse faire tout simplement parce qu'il est dans une opération. Il est dans une opération de détournement d'un vocabulaire, et donc il ne peut pas se passer. Il ne peut pas se passer de cette méprise. Cette méprise, c'est ce sur quoi avec qui il travaille. C'est ça, c'est important de comprendre. Ça nous ramène toujours à la question qu'il n'y a pas d'individuation sans assujettissement. C'est-à-dire que lorsqu'il discute avec ces gens, il discute avec le langage de l'assujettissement, et voilà, on travaille avec ça. C'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver à tirer de l'individuation de cette chose-là, mais il ne s'agit pas de dire aux gens « non, non, vous dites n'importe quoi, parlons d'autre chose et travaillons avec des concepts purs ». Non, ça n'existe pas. Donc ça, c'est très intéressant comme manière de faire de la philosophie. J'y insiste parce que, au fond, je pense que c'est une chose à laquelle il faut beaucoup réfléchir, et je crois que c'est très... Disons, curieusement, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est très très présent dans les pratiques artistiques, dont on dit souvent qu'elles sont ambiguës, mais en fait elles ne sont pas ambiguës. Elles sont toujours prises dans ces opérations doubles de pratique d'assujettissement, pratique de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans assujettissement, ce qui fait apparemment de l'ambiguïté, mais non, ce n'est pas de l'ambiguïté. C'est de l'opération, c'est tout à fait différent. Donc au fond, à partir de là, dès lors que on va focaliser cette question du jugement de la pratique sur l'action et non sur l'intériorité, autrement dit sur ce que Foucault appelle pratique réfléchie de la liberté, ou encore éthos, éthique, c'est-à-dire sur, au fond, notre capacité à exercer une action autonome, autonomie qui, je le répète, dépend de la réflexion misée dans notre action, et qui dépend aussi bien du pouvoir de détournement de cette action, on se rend compte que la possibilité même de cette action autonome, de cette action réfléchie, de cette action éthique, dépend du pouvoir qu'a le sujet, assujetti par un ensemble de discours, de pratiques, de ce que Foucault appelle des jeux de vérité, à réfléchir, c'est-à-dire au fond, encore une fois, à suspendre, à détourner, à retourner ces jeux de vérité, c'est-à-dire à transformer ces techniques de domination en stratégie de pouvoir. C'est-à-dire, au fond, à inverser la logique des techniques de pouvoir pour en faire des stratégies de pouvoir. Ce qui est important là-dedans, évidemment, c'est le mot de logique. C'est-à-dire que pour pouvoir détourner le logos de l'action assujettie, par exemple, l'action assujettie à l'institution, l'action assujettie au discours de la science, l'action assujettie au discours de la religion. Eh bien, il faut en passer également par la logique. On ne peut pas détourner un logos sans logos. Ce qui veut dire que l'action éthique doit elle-même se munir d'un certain logos. Et autrement dit, pour le dire avec Foucault, elle doit se munir de certains jeux de vérité. L'action éthique doit s'équiper, dit-il, et il doit s'équiper de vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais vous lire d'abord un passage de Foucault, qu'ensuite je vous commenterai. Vous trouvez ça, page 713, donc toujours disait, écrit, tome 4. Voilà, alors je vais vous lire ça à partir de là. Je ne dis pas que l'éthique est le souci de soi, mais que dans l'Antiquité, l'éthique comme pratique réfléchie de la liberté a tourné autour de cet impératif fondamental, soucie-toi de toi-même. L'intervieweur ajoute, impératif qui implique l'assimilation des logoi des vérités. Bien sûr, répond Foucault, on ne peut pas se soucier de soi sans connaître. Le souci de soi est bien entendu la connaissance de soi, c'est le côté socratico-platonicien. Mais c'est aussi la connaissance d'un certain nombre de règles, de conduites ou de principes qui sont à la fois des vérités et des prescriptions. Se soucier de soi, c'est s'équiper de ces vérités, c'est là où l'éthique est liée au jeu de la vérité. Et l'intervieweur continue. Vous dites qu'il s'agit de faire de cette vérité apprise, mémorisée, progressivement mise en application, un quasi-sujet qui règne souverainement en vous. Quel statut a ce quasi-sujet? Dans le courant platonicien, du moins selon la fin de l'Alcibiade, le problème pour le sujet ou pour l'âme individuelle est de tourner les yeux vers elle-même pour se reconnaître dans ce qu'elle est, et se reconnaissant dans ce qu'elle est, se rappeler les vérités dont elle est parente et qu'elle a pu contempler. En revanche, dans le courant qu'on peut nommer globalement stoïcien, le problème est d'apprendre, par l'enseignement d'un certain nombre de vérités, de doctrines, les unes étant des principes fondamentaux et les autres des règles de conduite. Il s'agit de faire en sorte que ces principes vous disent dans chaque situation, et en quelque sorte spontanément, comment vous devez vous conduire. C'est ici qu'on rencontre une métaphore qui ne vient pas des stoïciens mais de Plutarque, qui dit, citation, « Il faut que vous ayez appris les principes d'une façon si constante que lorsque vos désirs, vos appétits, vos craintes viendront se réveiller comme des chiens qui aboient, le logos parlera comme la voix du maître qui d'un seul cri fait taire les chiens. Vous avez là l'idée d'un logos qui fonctionnerait en quelque sorte sans que vous ayez rien fait, vous serez devenu le logos ou le logos sera devenu vous-même. » Voilà, donc c'est ça, ce logos qui doit équiper l'action éthique. C'est-à-dire que Hologoï, hein, qui détermine l'action assujettie, hein, ne peut s'opposer, qu'une action éthique elle-même, j'allais dire équipée de Logoï, hein, et de Logoï qui, comme vous le voyez, hein, constitue un quasi-sujet, c'est-à-dire au fond qui double véritablement on va dire l'agent, hein, qui est une espèce de spectre logique de l'agent et qui va pouvoir se substituer à lui, hein, comme un double, un spectre, hein, une doublure, hein, jouer à sa place, l'articuler et l'instrumenter au fin de l'action éthique. Au fond, ce que nous dit ici Foucault, c'est que l'action éthique, hein, doit posséder une sorte de qualité logique, hein, et cette qualité logique suppose une certaine auto-formation du sujet, un certain apprentissage des vérités. C'est-à-dire, au fond, elle suppose une discipline, elle suppose une ascèse, hein, mais cette ascèse ou cette discipline, elle est guidée, hein, par des vérités, hein, elle est articulée par des principes. Hein, c'est pas simplement une, comme on l'a trop souvent entendu, hein, la sculpture de soi ou je sais pas quoi. Hein, c'est véritablement, j'allais dire, un jeu de vérité qui s'exerce à travers la discipline. Hein. Donc au fond, l'action éthique, l'action libre, l'action émancipatoire ou l'action libératoire, hein, suppose qu'elle soit armée, hein, de manière à pouvoir faire dériver les logiques d'emprise, hein, à pouvoir retourner les logiques d'emprise, à pouvoir les déplacer ou encore les suspendre. Alors, maintenant, je vais réfléchir à cette question d'auto-formation, hein, puisque c'est là où on va trouver le problème de la mémoire et l'articulation logique-technique. Alors, cet équipement de l'action, cet équipement de l'action par des vérités, hein, c'est ça que Foucault appelle le souci de soi. Se soucier de soi, c'est s'équiper de vérités de telle manière que ces vérités puissent agir à votre place d'une certaine façon, articuler votre action, et la supporter, hein, une espèce de, c'est s'inventer une espèce de colonne vertébrale, hein, robotique, hein, qui va agir plus vite que vous. Et qui va doubler, d'une certaine façon, et anticiper une action qui risquerait d'être encore une action assujettie. Hein, donc il y a évidemment une question toujours de vitesse dans cette affaire. Alors, ce souci de soi, donc, il en trouve la théorie, tout simplement, dans la tradition stoïcienne. Et vous voyez bien dans ce texte, hein, qu'on a vraiment l'idée de la tradition cachée. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux grands courants. Hein, on a le courant socratico-platonicien, on veut dire ce courant qui a toujours été, j'allais dire, émergé. Et puis on a ce courant stoïcien qui est en fait cette tradition cachée et qui s'agit de faire réémerger. Donc au fond, qu'est-ce que fait le sujet stoïcien? Le sujet stoïcien, il doit se soucier de lui, hein, au sens où il doit apprendre à agir. Au fond, c'est ça, hein, se soucier de soi. Ça veut dire apprendre à agir, hein, au sens propre terme agir, hein, c'est-à-dire au fond il doit apprendre à agir au sens où agir c'est se conduire soi-même, hein, c'est intéressant la forme réfléchie, se conduire, hein, se conduire soi-même, hein, comme si on se prenait par la main, hein, et là ce qui va vous prendre par la main c'est Logoï, hein, c'est une manière au fond d'apprendre à se gouverner soi-même, à gouverner évidemment les autres, hein, grâce au fait qu'on se gouverne soi-même. Alors, ces techniques de soi, ce sont des techniques réflexives. Hein. C'est-à-dire, ce sont des actions réfléchissantes. Pourquoi ? Parce que, dès lors que vous vous posez la question de savoir comment agir, hein, ou plutôt, plus exactement, dès lors que vous essayez d'apprendre à agir, et que vous ne vous mettez pas simplement dans la position d'agir, et vous ne vous dites pas que faire, mais vous vous dites je dois apprendre à agir. Vous vous heurtez immédiatement au fait que, en réalité, vous êtes agi. C'est-à-dire que vous êtes toujours déjà agi, c'est-à-dire que vous êtes toujours déjà assujetti. Et donc, dès lors qu'un sujet cherche à contrôler, maîtriser, dominer ses actes, que ce soit le plus bête de ses comportements physiques ou la plus simple de ses émotions jusqu'à sa pensée la plus complexe, eh bien, il s'aperçoit, il devient conscient qu'en réalité, il est déjà le siège d'un certain nombre d'actions corporelles, émotives, affectives, cognitives qui préexistent à son désir de maîtrise ou à sa conscience. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit d'abord, et l'action elle commence par cela, s'apercevoir que je suis un corps et une pensée assujettis, et un affect assujetti. Donc le souci de soi, ça commence par la réflexion de cet assujettissement, et par naturellement l'exploration et la connaissance des pouvoirs auxquels je suis ainsi assujetti. Pouvoir institutionnel, pouvoir religieux, pouvoir discursif, etc. Donc au fond, l'individuation, elle passe d'abord par la connaissance de ces mécanismes extrêmement subtils, extrêmement cachés, mais en même temps extrêmement automatisés, de l'assujettissement. Et c'est seulement à partir de là qu'il est possible de commencer à agir sur cet assujettissement. C'est-à-dire, c'est à partir de l'assujettissement que peut se définir une action individuée. Et cette action individuée, elle ne peut se mener que grâce, une fois qu'elle a réalisé, j'allais dire, cette passivité fondamentale, qu'il n'y a pas d'action qui ne soit une action à partir d'une passivité. Et qu'au fond, cette passivité fondamentale, elle ne peut lui donner une certaine... elle ne peut l'individuer, finalement, c'est-à-dire elle ne peut la transformer véritablement en acte que grâce à un certain nombre de techniques. Alors ces techniques, ce sont des techniques du corps, ce sont des techniques de l'âme, qui, au fond, sont des espèces d'outillage de l'action, et qui donnent à l'action la force de contrecarrer cette espèce de donnée, cette espèce de glu, cette espèce de passivité, que les Grecs appelaient les instincts ou les passions, et que Foucault appelle la domination ou l'assujettissement. Au fond, ce que Foucault théorise, c'est une espèce d'auto-dressage de l'action qui instruit l'agent de telle sorte que cet agent peut devenir effectivement le maître de ses sentiments, de ses actions, de ses comportements, etc. Au fond, et il s'agit de fabriquer une espèce de corps lisse sur lequel les mécanismes d'assujettissement vont déraper, tout simplement. Une espèce de corset sur lequel vont déraper ces espèces de fonctions de domination. Il s'agit de s'inventer une espèce de double, de double en acier armé, si je puis dire, et de double entièrement artificiel. Et ça, c'est très important pour la pratique artistique, puisque toute pratique artistique passe par des protocoles d'action qui sont des façons de constituer un spectre de soi-même qui va faire obstacle à tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une immédiateté de l'action. Ça, c'est tout à fait fondamental, c'est dans la pratique. Donc, au fond, il faut équiper l'action par des techniques du corps, des techniques de l'âme, qui sont toutes, avant tout, des jeux de vérité, c'est-à-dire... qui obéissent à des règles, qui obéissent à des prescriptions, qui obéissent évidemment à des discours, tout ce que Foucault pense par ailleurs sous le terme d'énoncé. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est ? Ça n'a rien à voir avec la vérité au sens où on l'entend classiquement, mais ce sont des choses ou des discours auxquels on croit, nous, aujourd'hui, dont on parle, qu'on croit vrai ou qu'on croit faux, peu importe, c'est-à-dire qui, en tout cas, pour lesquels on est prêt à se battre, c'est-à-dire qui font une espèce de consensus, alors, ou un dissensus, peu importe, mais qui sont ces énoncés autour desquels s'articulent les jeux de la vérité. Ça c'est constitué par des pratiques, c'est constitué par des discours, c'est constitué par des institutions qui, au fond, vont depuis la prescription sexuelle jusqu'à la diététique, en passant par la théorie philosophique, la médecine, tout ce qu'on veut. L'important, c'est vraiment un espèce de corpus d'énoncés qui sont ce qu'on croit vrai ou faux, peu importe. L'important est plutôt le « on », et plutôt la fonction discursive qui va articuler ce « on », ou l'énonciation qui va articuler ce « on » en un temps « t ». Ces jeux de vérité, c'est simplement ça. Et je ne développe pas ce point parce qu'au fond, ce n'est pas du tout crucial pour nous. Ce qui, en revanche, est crucial pour notre propos, c'est la manière dont Foucault va penser, ou le point à partir duquel Foucault va penser les techniques de soi. Il le pense à partir des techniques de soi antiques, mais plus particulièrement à partir de techniques de soi antiques qui sont toutes articulées à partir de l'écriture. C'est ça qui est important. Les jeux de vérité donc vont équiper l'action du sujet passent, nous dit Foucault, ou passaient dans l'Antiquité par des énoncés scriptibles, des écrits. Ces jeux de vérité passaient par l'écriture, c'est-à-dire, évidemment, par des techniques d'enregistrement et donc des techniques de mémorisation. C'est, dit encore Foucault, c'est l'écriture qui va transformer ces jeux de vérité en éthos. C'est l'écriture qui transforme ces jeux de vérité en éthopoétique. Je vais vous lire le passage qui se trouve dans l'écriture de soi, page 418. Je vous cite le texte, qui est un texte évidemment important. Ça précède le paragraphe sur les hypomnémata dont je parlerai ensuite. Quel que soit le cycle d'exercice où elle prend place, l'écriture constitue une étape essentielle dans le processus auquel tend toute l'askésis, à savoir l'élaboration des discours reçus et reconnus comme vrais en principe rationnels d'action. Comme élément de l'entraînement de soi, l'écriture a, pour utiliser une expression qu'on trouve chez Plutarque, une fonction éthopoétique. Elle est un opérateur de la transformation de la vérité en éthos. Cette écriture éthopoétique, telle qu'elle apparaît à travers les documents du 1er et 2e siècle, semble s'être logée à l'extérieur de deux formes déjà connues et utilisées à d'autres fins, les hypomnémata et la correspondance. Alors, parmi ces techniques de soi, alors j'hésite à m'arrêter tout de suite, peut-être que... je crois que je vais continuer un tout petit peu, et puis après je m'arrêterai au moment où j'actualise véritablement la thèse de Foucault pour l'aujourd'hui, si je passe à une certaine perspective plus critique par rapport à Foucault. Donc j'en ai pas pour très longtemps, mais je préfère finir ce mouvement. Donc au fond, parmi les techniques de soi que Foucault va décrire dans l'usage des plaisirs et dans le souci de soi, il y en a donc deux qui l'intéressent et qui reprend dans cet article, qui sont donc les hypomnémata et la correspondance. Ce qui est intéressant dans ces deux pratiques de soi, ou ces deux techniques de soi, c'est que elles constituent en fait la construction absolument méthodique d'une espèce de corpus textuel, un corpus de texte, d'écriture, qui vient se substituer, comme le dit Foucault, non seulement à ce que nous appellerions l'expérience, mais même à ce que nous appellerions le corps propre. C'est qu'au fond, il y a ces procédures, et là, moi, je fais surtout référence aux hypomnémata qui m'intéressent davantage, hein, parce qu'à mon avis, elles sont plus intéressantes pour nous aujourd'hui. Ça consiste dans une sorte d'enregistrement de la vie au jour le jour, grâce à l'écriture, et je vais vous lire tout à l'heure un passage correspondant, de telle sorte, et là je crois est le point le plus important, de telle sorte que le présent de ma vie, c'est-à-dire ce dont j'ai tendance toujours à surestimer l'intérêt, la nouveauté, l'incertitude en même temps, ou la virtualité, ou les potentialités, de telle sorte que ce présent soit immédiatement, au temps T et au jour le jour, converti en passé. Et simultanément diffracté, sous la forme d'une espèce de montage textuel, de palimpseste, d'écrits dispersés, qui comportent à la fois des citations, des notes, des réflexions, et qui construisent finalement une espèce d'armure, d'armure disparate au fond, qui construisent un corps factice qui est, j'y reviens, un principe d'action rationnelle. Alors je voudrais vous lire deux passages pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce texte. Donc les hypomnémata pouvaient être des livres de contes, des registres publics, des carnets individuels servant d'aide-mémoire. Leur usage comme livre de vie, guide de conduite, semble être devenu chose courante dans tout un public cultivé. On y consignait des citations, des fragments d'ouvrages, des exemples et des actions dont on avait été témoin ou dont on avait lu le récit, des réflexions ou des raisonnements qu'on avait entendus ou qui étaient venus à l'esprit. Ils constituaient une mémoire matérielle des choses lues, entendues ou pensées. Il les offrait ainsi comme un trésor accumulé à la relecture et à la méditation ultérieure. Il formait aussi une matière première pour la rédaction de traités plus systématiques dans lesquels on donnait les arguments et moyens pour lutter contre tel défaut ou pour surmonter telle circonstance difficile. Ainsi, lorsque Fondanus demande des conseils pour lutter contre les agitations de l'âme, plus tard qu'à ce moment-là, n'a guère le temps de composer un traité en bonne et due forme, il va donc lui envoyer sans apprêt les hypomnémata qu'il avait rédigés lui-même sur le thème de la tranquillité de l'âme, etc. Aussi personnels qu'ils soient, ces hypomnémata ne doivent pas cependant être compris comme des journaux intimes ou comme ces récits d'expériences spirituelles, tentations, luttes, chutes et victoires, qu'on pourra trouver dans la littérature chrétienne ultérieure. Ils ne constituent pas un récit de soi-même, ils n'ont pas pour objectif de faire venir à la lumière du jour les arcana conscientiae dont l'aveu oral ou écrit a valeur purificatrice. Le mouvement qu'ils cherchent à effectuer est inverse de celui-là. Il s'agit non de poursuivre l'indicible, non de révéler le caché, non de dire le non-dit, mais de capter, au contraire, le déjà-dit. Rassembler ce qu'on a pu entendre ou lire, et cela pour une fin qui n'est rien de moins que la constitution de soi. Les hypomnémata sont à resituer dans le contexte d'une tension très sensible, etc. On va laisser tomber ça. Il y a là pour nous quelque chose de... Alors, tel est bien l'objectif des hypomnémata, faire de la récollection du logos fragmentaire et transmis par l'enseignement, l'écoute ou la lecture, un moyen pour l'établissement d'un rapport de soi à soi, aussi adéquat et achevé que possible. Il y a là pour nous quelque chose de paradoxal. Comment être mis en présence de soi-même par le secours de discours sans âge et reçu d'un peu partout? En fait, si la rédaction des hypomnémata peut contribuer à la formation de soi à travers ces logoi dispersés, c'est pour trois raisons principales. Les effets de limitation dus au couplage de l'écriture avec la lecture, la pratique réglée du disparate qui détermine les choix, l'appropriation qu'elle effectue. Et un tout petit peu plus loin, ce disparate voulu n'exclut pas l'unification. Mais celle-ci n'est pas opérée dans l'art de composer un ensemble, elle doit s'établir dans le scripteur lui-même comme le résultat des hypomnémata de leur constitution et donc dans le geste même de l'écriture, de leur consultation et donc dans leur lecture et leur relecture. Effectivement, j'ai sauté un passage où ce que dit Foucault, c'est que non seulement il faut noter évidemment au jour le jour donc cette espèce de corpus de citations, réflexions, notes, mais il faut aussi bien au jour le jour les lire et les relire. Donc il y a une espèce d'exercice constant. deux processus peuvent être distingués. Il s'agit d'une part d'unifier ces fragments hétérogènes par leur subjectivation dans l'exercice de l'écriture personnelle. Cette unification, Sénèque la compare, selon des métaphores très traditionnelles, soit au butinage de l'abeille, soit à la digestion des aliments, soit encore à l'addition des chiffres formant une somme. Ne souffrons pas que rien de ce qui entre en nous ne demeure intact, de peur qu'il ne soit jamais assimilé. Digérons la matière, autrement elle passera dans notre mémoire, non dans notre intelligence. Adhérons cordialement à ces pensées d'autrui et sachons les faire nôtres, afin d'unifier cent éléments divers comme l'addition fait, de nombre isolé à nombre unique. Le rôle de l'écriture est de constituer, avec tout ce que la lecture a constitué, un corps, et ce corps, il faut le comprendre non pas comme un corps de doctrine, mais bien, en suivant la métaphore si souvent évoquée de la digestion, comme le corps même de celui qui, en transcrivant ses lectures, se les est approprié et a fait sienne leur vérité. L'écriture transforme la chose vue et entendue en force et en sang, in vires, in sanguinem. Elle se fait dans le scripteur lui-même un principe d'action rationnelle. Donc on a véritablement un corpus qui devient corps dans le scripteur. C'est ça le fonctionnement, l'opération que je voulais vous indiquer. Alors, c'est cela l'auto-formation. Deleuze, dans son texte sur Foucault, parle d'auto-affection. Et là encore, j'aimerais bien qu'on évoque plus tard la différence entre auto-affection et auto-formation. Parmi, au fond, ces techniques, si les plus importantes pour moi, ce sont bien les hypomnémata, c'est parce que elles indiquent bien, et on vous l'avait dans l'expression, le rapport de soi à soi. Ces techniques distinguent bien ce qui indiquent bien ce qui distingue le rapport à soi d'un soi identique à lui-même. Le rapport à soi, ça suppose que précisément il n'y a pas de soi. Et la manière dont elle construit surtout le rapport à soi sur la base d'un non-rapport. Et ce non-rapport, bien sûr, c'est le temps, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'au fond, s'il est nécessaire de construire un rapport à soi, c'est parce que, comme le voyaient bien d'ailleurs déjà les stoïciens, nous sommes d'emblée divisés par un non-rapport à nous-mêmes, un non-rapport à nous-mêmes que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai indiqué comme étant ce présent apparemment riche de virtualité, de devenir, de potentialité, d'incertitude, etc. Et que il faut arracher un rapport à soi, c'est-à-dire un temps maîtrisable, un passé maîtrisable, un présent qu'on constitue immédiatement comme passé dont on est le souverain, contre la réalité d'un présent qui déchire ontologiquement le soi. Donc au fond, ce qui construit le rapport à soi, c'est la conscience avant tout du temps qui rend impossible la constitution du soi comme soi. Et on revient à notre point de départ. C'est-à-dire on revient au fond à ce qui fait très précisément de la pratique foucauldienne, de la pratique de soi foucauldienne, très exactement l'héritière du médium de la réflexion chez Kant. Parce que vous vous souvenez que dans l'esthétique de Kant, ça on pourra y revenir tout à l'heure peut-être, la forme indéterminée qui permet cette espèce de relation médiatisée à soi qu'est le jugement, ça occupe très précisément la place, ou ça vient boucher plutôt, cette espèce de vide qu'avait creusé le temps comme forme de la pensée dans la conscience. Et qu'au fond, on s'aperçoit que si au fond la connaissance de soi ou la connaissance du noumène est impossible chez Kant, c'est tout simplement parce que ma pensée est articulée par la forme du temps. C'est-à-dire que ma pensée est un écoulement, c'est un flux. Et que cette forme, elle m'échappe. Cette forme de l'écoulement m'échappe par définition. Eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, De la même façon, de même que le jugement chez Kant hein, est une manière de, comment dire, sur la base de la reconnaissance de cet écoulement de la pensée, hein, d'intérioriser hein, cette extériorité du temps qui fonde la pensée, hein, de la même façon, la pratique chez Foucault, hein, c'est une manière d'intérioriser hein, cette extériorité hein, à l'action hein, qu'est le présent. Donc au fond, je voudrais juste lire un tout petit passage qui se, et je vais conclure sur ça et puis ensuite sur une citation de Deleuze et puis après on s'arrêtera. Hein. L'écriture des upomnemata s'oppose à cet éparpillement en fixant des éléments acquis en constituant en quelque sorte du passé vers lequel il est toujours possible de faire retour et retraite. Cette pratique est à relier à un thème très général à l'époque. Il est en tout cas commun à la morale des stoïciens et à celle des épicuriens, le refus d'une attitude d'esprit tournée vers l'avenir qui, à cause de son incertitude, suscite l'inquiétude et l'agitation de l'âme. Et la valeur positive accordée à la possession d'un passé dont on peut jouir souverainement et sans trouble. La contribution des hypomnémata est l'un des moyens par lesquels on détache l'âme du souci du futur pour l'infléchir vers la méditation du passé. Et je voudrais simplement commenter, puis on reviendra tout à l'heure là-dessus, par un petit passage de Deleuze. Hein, tout ça est une autre façon de toujours dire la même chose et de tourner autour du même problème. C'est page 115 hein, de l'article sur les plissements ou le dedans de la pensée. Hein. Déjà, nous dit Deleuze, l'existence esthétique des Grecs sollicite essentiellement la mémoire du futur et, très vite, les processus de subjectivation se sont accompagnés d'écritures qui constituaient de véritables mémoires, hypomnémata. Mémoire est le vrai nom du rapport à soi ou de l'affect de soi par soi. Ce que Foucault appelle rapport hein, de soi à soi. Selon Kant, le temps était la forme sous laquelle l'esprit s'affectait lui-même, tout comme l'espace était la forme sous laquelle l'esprit était affecté par autre chose. Le temps était donc auto-affection constituant la structure essentielle de la subjectivité. Mais le temps comme sujet, ou plutôt subjectivation, s'appelle mémoire. Non pas cette courte mémoire qui vient après, la mémoire de quelque chose, et qui s'oublie, s'oppose à l'oubli, mais l'absolue mémoire qui double le présent, qui redouble le dehors et qui ne fait qu'un avec l'oubli, puisqu'elle est elle-même et sans cesse oubliée pour être refaite. Son pli, en effet, se confond avec le dépli, parce que celui-ci reste présent dans celui-là, comme ce qui est plié. Donc ce qui est important ici dans cette idée de la mémoire absolue, c'est cette idée tout simplement de l'enregistrement automatique du présent comme passé, tout simplement. Et qu'au fond, l'extériorité hein, autour de laquelle déjà tournait le jugement chez Kant, et autour de laquelle continue de tourner la pratique chez Foucault, eh bien, c'est cette extériorité de l'absolue mémoire, c'est-à-dire cet enregistrement automatique hein, du présent comme passé, hein, qui est au fond cette fondamentale, ce que j'ai tout à l'heure désigné comme la fondamentale passivité. Hein. Au fond, s'il y a un assujettissement ontologique, il est là. Hein. Et que la question fondamentale de l'émancipation ou de l'individuation, c'est bien les techniques de la mémoire. C'est parce que seules les techniques de la mémoire peuvent constituer des manières d'internaliser cette extériorité ontologique du temps ou de la mémoire absolue. Et c'est pourquoi, au fond, il y a une relation très directe entre cette extériorité technique qui se constitue, hein, ou technique, technologique, technoscientifique, que nous voyons effectivement se constituer sous la forme de l'information, hein, qui sont ces techniques, en fait, de la mémoire, et cette question du pouvoir, hein, de la domination, du pouvoir de domination et des stratégies de pouvoir qui permettent éventuellement de fabriquer des modèles d'individuation à partir de ces dominations, qui en passent nécessairement, hein, par la question de la mémorisation et des formes technologiques de la mémorisation. Donc vous voyez que, pour en conclure, hein, pour en terminer avec cette question de la critique hein, de l'intériorité et de la manière dont le jugement, comme la pratique, jugement kantien, pratique foucaldienne, sont déterminés par cette double extériorité, hein, il faut réfléchir hein, à la manière dont cette extériorité, fondamentalement, hein, eh bien, c'est le temps. Hein, c'est le temps comme condition ontologique. Hein, et que la seule façon hein, de nouer une action hein, à partir de cette condition, hein, de cette situation, hein, eh bien, c'est de travailler à transformer l'absolue mémoire hein, en action, hein, en action ou en protocole mémoriel. Hein, comment arriver finalement à transformer cet assujettissement hein, de toutes nos pensées, de toutes nos pratiques hein, par l'absolue mémoire en individuation, eh bien, le secret, et ce n'est pas un secret que nous avons trouvé aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, et on le voit déjà à travers les hypomnématas stoïciennes, hein, c'est de travailler à inventer des techniques de soi qui sont toujours des techniques de la mémoire, qui sont toujours, d'une certaine façon, des arts de la mémoire. Alors, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est, et je conclurai là-dessus, hein, et ce sur quoi, naturellement, il faudrait réfléchir à partir de là, c'est à la question des arts de la mémoire hein, et à la raison pour laquelle ces arts de la mémoire ont complètement disparu hein, du champ de la réflexion au XVIIIe siècle. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment, disons, une des grandes apories de la modernité. Hein. C'est-à-dire que la modernité, tout en prenant conscience de plus en plus de l'extériorité qui était la condition de la pensée comme de la pratique, simultanément s'est arrêtée de penser ce qui était pourtant les seules façons, j'allais dire, de trouver des modes d'émancipation face à cet assujettissement ontologique qui était les techniques de la mémoire, les arts de la mémoire. Et là, on a vraiment une aporie, exactement comme chez Kant. Hein, finalement, la seule expérience émancipatoire, c'est l'expérience du sublime, hein, qui est une expérience du temps qui ne fait pas appel à la mémoire. Hein. On a l'impression qu'il y a comme une espèce d'impasse sur la mémoire. Hein. Et on comprend très bien dans une perspective d'Aufklärer où la question c'est de se débarrasser de la tradition, d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire de faire table rase hein, d'un certain passé. Et voilà. Mais en même temps, on se rend compte que là, on a certainement le talon d'Achille, à mon avis, de la modernité hein, dans cette question. Voilà. Donc je vous propose qu'on s'arrête là. Je suis désolée, c'était un petit peu long, mais voilà. Et qu'on reprenne à 4h30, par exemple, pour avoir encore une heure. J'en ai pas pour très longtemps, donc on aura le temps d'une conversation après.